Bonjour, il est 8h, nous retrouvons le Point Presse animé par Arnaud Laporte en direct du 70e Festival d'Avignon. Aujourd'hui avec Marie Chouinard, Clara Le Picard et le Raoul Collectif.
Nouveau Point Presse avec trois spectacles qu'on va évoquer aujourd'hui. Le premier avec Marie Chouinard, Soft Virtuosity Still Humid on the Edge. On parlera ensuite de l'imagination avec Clara Le Picard et enfin Rumeurs et Petits Jours avec tout le Raoul Collectif. Mais je débute avec Marie Chouinard, magnifiquement installée sur cette table, qui signe la chorégraphie, la vidéo, la scénographie, les accessoires et la lumière avec Robin Kittel-Wimé de Soft Virtuosity Still Humid on the Edge. Peut-être commencer par cela, sur le fait que vous investissiez à ce point dans presque tous les postes de la création. Alors seule la musique est signée Louis Dufort, seul, on y reviendra. Est-ce que cette prise de pouvoir sur les différents éléments constitutifs d'un spectacle, c'est venu progressivement au cours de votre parcours?
Ça a commencé comme ça il y a 40 ans et puis ça continue. L'œuvre sur scène, c'est une œuvre et puis je la fais au complet autant que possible. Je suis désolée de ne pas faire la musique, mais tant mieux. Louis est extraordinaire. Ça fait 20 ans que je travaille avec Louis Dufort. Même la prochaine pièce, là, on a une première mondiale la semaine prochaine et puis c'est encore lui qui a fait la musique. Alors je me sens très bien accompagnée avec Louis Dufort.
Mais à quoi ça correspond ce désir de prendre en charge tous les éléments constitutifs d'une pièce?
Je ne sais pas. Il me semble que Léonard de Vinci s'occupait de tout dans son tableau, presque de tout. C'est sûr qu'il y avait des gens qui allaient faire les nuages ou les arbres dans le fond. Mais pour moi, c'est même pas une question. C'est des questions étranges parfois pour la danse. On ne demanderait pas à un peintre ou à un sculpteur ou à...
Si, mais
ouais.
Bon, c'est une autre...
C'est ça, oui, c'est ça. Si. C'est ça.
Autrement,
ouais.
Il y a des ateliers, ouais. Il y a des assistants, ça
ouais,
existe
c'est
aussi.
Ça, c'est
et on
ça.
Pose
ouais,
ces questions-là.
Oui, ouais, ouais, très bien. Très bien. Ouais.
Mais justement, on peut dire aussi que vous avez investi les champs de l'écriture, du dessin, de la photographie, du cinéma, de l'installation, les nouveaux outils numériques aussi vous intéressent. Est-ce qu'il s'agit toujours de creuser le même sillon avec les outils à disposition, ou est-ce que selon le projet, il y a un mode d'expression qui s'impose?
C'est différent. Par exemple, vous pouvez télécharger, il y a une application qui s'appelle Quantique. Alors, c'est une application que vous pouvez avoir sur votre iPhone, donc qui est une œuvre pour une application. Mais si vous allez la visiter, je ne sais pas si vous l'avez fait, vous allez voir que c'est encore à partir du corps, que c'est encore à partir du souffle, que c'est... Mais c'est très différent puisque c'est une application, c'est un jeu, c'est une espèce de jeu sans but, sans but compté, sans personne qui gagne, mais il y a quand même un jeu de création d'une espèce de conversation d'onomatopée entre un homme et une femme qui sont de profil. Donc, il y a quelque chose de chorégraphique, mais pour les visages. Donc, c'était déjà là quelque chose sur le travail du visage avec Quantique. Alors, c'est jouer, en fait. C'est jouer. Jouer, je veux dire, cette envie de faire des poèmes ou d'écrire ou de faire un film ou de faire une installation, c'est jouer avec la matière, avec les possibilités, avec tout ce qui est là. Je pourrais aussi ne pas jouer du tout. Je pourrais aussi ne pas créer, mais c'est ça qui me tient. J'aime faire ça, alors je continue de le faire.
Le titre du spectacle? Pour une fois en anglais, alors du coup je le traduis en français, virtuosité douce, encore humide sur le bord. Traduction assez simple, mais je pense assez proche de sa version anglaise. Quelle importance vous donnez au titre? Parce que finalement c'est quand même le premier contact qu'un spectateur a avec une œuvre. Qu'est-ce que vous voulez indiquer avec un titre?
Habituellement, j'aime les titres qui sont très, très fonctionnels. Mmh. Comme par exemple, Le sac du printemps que j'ai fait s'appelle Le sac du printemps. Les 24 préludes de Chopin s'appellent Les 24 préludes de Chopin. Quand j'ai fait quelque chose sur un livre d'Henri Michaud qui s'appelle Mouvement, la pièce s'appelle Henri Michaud, Mouvement. Là, la prochaine pièce, ça sera Jérôme Bosch, Le Jardin des délices, parce que je suis partie de la toile de Jérôme Bosch, Le Jardin des délices. Là, en fait, pour cette pièce-là, j'avais pas de référence musicale à quelque chose de connu. J'avais pas de référence à un tableau. J'avais rien. Alors, j'étais bien obligée de trouver un titre. Alors, j'ai fait ça.
Il est venu?
Non, je l'ai cherché longtemps. Ça m'énerve, trouver un titre. Mais il faut toujours que j'attende. C'est ça qui est long, parce que je peux trouver le titre seulement à la fin. Normalement, je trouve le titre seulement à la fin. Quand c'est un titre qui n'est pas seulement fonctionnel, je le trouve à la fin. Et puis, habituellement, il y a quelque chose de... C'est obligé d'être quelque chose on pourrait dire poétique, parce que j'arrive pas à trouver qu'est-ce qui est fonctionnel. Donc, je fais un titre qui peut-être dans la forme du langage donne un peu l'esprit de la pièce, mais peut-être pas du tout non plus. C'est une autre position à l'intérieur par rapport à cette pièce-là, mais qui passe par les mots. C'est pas la même chose du tout, peut-être.
Alors, vous disiez pas de référence de livre ou de tableau ou de musique. Peut-être la référence de base, c'est la marche. Est-ce que la marche, c'est le début de la danse?
Non, la respiration, je dirais. Je dirais que la respiration, c'est le début de la danse. Être en vie, c'est le début de la danse. Et même avant, je parlerais même des respirations, avant que ce soit des respirations, notre forme de respiration à nous, c'est on prend de l'air qui est à l'extérieur, on le fait pénétrer en dedans, on fait un processus avec et puis on le ressort. Tandis que pour les plantes, il y a quelque chose qui est plutôt par osmose. C'est tout à la surface de la plante que les cellules respiratoires. Mais déjà là, j'ai l'impression que dans la respiration des plantes, il y a déjà une danse. Mais ça part du souffle. Ça part du souffle, je crois. Je sens que ça part du souffle. Puis ça part du désir. Parce que avant les humains, là où il y a la danse, c'est chez les animaux qui sont en rute. Et ils ont tous des danses, presque tous, ils ont des danses de copulation. Et donc, c'est le désir qui les fait bouger autrement. Bouger autrement que fonctionnellement. Mais c'est la grande fonction de la rencontre. Mais ça prend une manière de... C'est une disposition intérieure qui est tellement troublante que le corps s'en trouve transformé. Et puis, étant transformé, il bouge différemment. Donc, la danse est vraiment une chose très, 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 très ancienne.
Pour le spectateur, il y a des allers-retours entre les visages et les corps dans cette pièce, avec un travail sur la vidéo qui fait comme des détails de tableau, justement. On irait isoler un paysage-visage. Comment est-ce que vous avez travaillé ces deux types de focales ou de plans, justement, entre le plan large de la salle quand on est spectateur et puis ces plans rapprochés de vidéo? Qu'est-ce qui se raconte dans ces deux valeurs de plan?
La même chose. La même chose de... Il y avait quelque chose d'un peu particulier hier pour ceux qui ont vu le spectacle, parce que normalement, on projette quand même sur un écran. Donc, normalement, on voit très, 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 très bien la lumière dans l'œil. Et là, là, j'ai accepté de le faire dans cet espace-là parce que j'adore cette cour, j'adore cet endroit-là. Donc, j'ai accepté de le faire là en sachant que j'aurais pas l'écran, l'écran blanc. Puis je le regrette pas, je suis contente quand même. Mais il faut savoir que à l'origine, c'était pour qu'on voit encore plus tous les détails du visage. Alors ça c'est ça qui m'intéressait. Mais même si on les a pas vus hier, je me disais ça marche quand même. Alors moi, je sais pas tout expliquer dans mon travail, mais c'était pas là au départ quand j'ai commencé la pièce. J'ai beaucoup travaillé sur les visages. Puis, à un moment donné, je me suis dit, oh là là, mais je m'intéresse tellement à comment Lucimée, il y a un petit muscle ici qui se met à trembler, comment Carole, son œil devient comme transparent à un moment donné. Puis, cet appel-là de leur visage m'a fait pensé après quelques semaines, oh, mais je peux pas avoir tout le monde dans la première rangée. D'ailleurs, hier soir, j'étais assise dans la première rangée parce que moi, j'aime ça voir les. J'adore les danseurs. J'adore mes danseurs, mais j'adore les danseurs. J'adore voir la danse de très, très près. De très, très près. Alors là, je me suis dit, comment je vais faire pour redonner au public l'accès à ces visages-là? Alors donc, c'est très solution de problème. Qu'est-ce que je fais pour amener les visages? Ah, j'amène caméra live. Mais après ça, c'est là que le jeu est extraordinaire. C'est parce qu'en se demandant comment on va amener les visages auprès, ben là, où est-ce qu'on met la caméra? Comment est-ce qu'on fait? Non, je veux pas de caméraman sur scène. Puis on construit ça. Puis moi, j'adore créer, on fait comme ça. Puis ça, c'est comme une espèce de machine qui se met en marche à un moment donné, malgré soi, ça avance, puis à un moment donné, ça avance comme organiquement tout seul. C'est comme une bête qui a sa propre envie de boire de l'eau. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous asseoir à côté de moi? Vous inventez ça, là, vous avez besoin de vos papiers. Vous auriez pu mettre votre papier comme ça.
Je ne suis pas un de vos interprètes, donc je choisis ma place.
Non, mais c'est parce que c'est pas ça. Non. C'est l'idée d'être... Parce que là, votre ventre, votre sexe est caché. Caché.
Ouais.
Puis là, on n'est pas en relation avec
ça
les
va
gens.
Le rester, d'ailleurs.
Non.
Alors,
moi,
vous demandez...
Pas.
Alors,
non, monsieur, non, je voulais pas vous insulter. Non, je voulais pas.
Mais je plaisante.
Ah, d'accord, OK.
Non, on n'a pas le même humour, peut-être. C'est pas grave.
Non, peut-être.
Mais alors justement, puisque on voit mon visage, vous demandez ou vous permettez beaucoup à vos interprètes quant à l'expressivité du visage. Qu'est-ce que vous leur avez dit sur ce travail-là?
Oh mon Dieu, je leur ai dit tellement de choses à travers toutes ces semaines-là. Alors une des premières choses que j'ai dites, c'était de ne pas essayer de me donner des émotions, de ne pas essayer de penser à la tristesse ou à la colère, ou à des émotions, puis d'essayer de faire ces émotions-là. Je leur ai demandé de d'abord tourner les organes à l'intérieur, de tourner la position du poumon gauche par rapport à l'estomac, de commencer à bouger l'intérieur. Puis dès qu'on commence à bouger l'intérieur, ça vient se refléter sur l'eau du visage, sur le lac du visage. Donc si on part de là vraiment, et c'est comme ça de toute façon une émotion. Une émotion, ça part du souffle, et puis à partir de là, ça nous a bougé intérieurement, donc ça finit par venir bouger le muscle du cou, ça oriente la tête différemment, ça place l'atlas différemment, ça place le front différemment, ça recule la nuque derrière, ça fait tout bouger le visage. Donc on a beaucoup travaillé à laisser, à partir des mouvements en dedans, laisser le visage prendre ce reflet de ce qui est en dedans. Maintenant, comment savoir si ce qu'on fait là, c'est le reflet de ce qui est en dedans? Mais ça, c'est comme la vérité. On le sent. C'est comme l'honnêteté. On le sent. C'est comme... juste donner un temps, on le sent. C'est comme ça, faut y croire. Ça, il faut y croire aussi. Il faut que les danseurs y croient. Donc, je les aime. Ça, c'est la première chose. Il faut les aimer, nos interprètes, je crois. Mais c'est pas il faut, mais c'est il faut les choisir pour les aimer. Puis après, il faut aimer voir comment chacun, par exemple, le visage de Paige répond pas du tout de la même manière que le visage de Carole à cette demande-là. Puis après, donc, avec ce que ça donne dans leur visage, je continue de les diriger, eux, par rapport à eux. Parce que il faut pas dire la même chose à chacun. Alors, tout le monde a l'air d'être dans le même voyage, oui, mais il faut dire des choses différentes, très différentes parfois à chacun, pour que tout le monde soit sur le même diapason. Mais ça va donner des résultats différents quand même à chacun son âme ou sa façon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre parce qu'il y a d'autres choses sûrement à dire.
Dire que ces visages, on ne les voit pas toujours parce que vous aimez aussi les...
Ah oui.
Vous amusez à les cacher avec leurs propres vêtements et là, du coup, on est sur les corps.
Oui.
Il y a ce jeu aussi, là, d'aller-retour.
Ah oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas pensé à ça.
Ah, ben,
moi, j'ai pensé que, du coup, on était sur le sans-visage.
Oui, le sans-visage avec du corps, quand même.
Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai vraiment pensé qu'on était avec le sans-visage. Ce que plusieurs font aussi. Et puis, mais moi, ça me faisait ça. Quand je regarde les danseurs danser avec le sans-visage, mais je regarde leur visage encore parce que juste comment on incline la tête, mm-hmm. ou comment on tourne la tête, ça, déjà le visage dit beaucoup, même lorsqu'il est caché, parce que la position de notre tête sur notre corps, ça dit beaucoup sur là où on est situé.
Pour finir, ce rapide point presse, Marie Chouinard, enfin rapide, non, chacun va passer. On a évoqué la musique au début, donc le seul poste, si je puis dire, que vous déléguez totalement. Quelle fonction vous attribuez à la musique et comment vous travaillez avec votre compositeur?
Alors, la musique, même si elle est extrêmement importante, pour moi, c'est la chose la plus importante après la chorégraphie, mais la musique, elle vient presque en dernier, quand j'ai presque créé au complet la chorégraphie. Là, à ce moment-là, j'envoie des vidéos à Louis. Puis je lui dirais, c'est ça la nouvelle chorégraphie, on se parle un peu, je lui dis un peu par où je m'en vais. Puis lui, il me crée une musique là-dessus, sur ce que j'ai créé chorégraphiquement. Puis c'est comme ça que j'aime le rapport de la danse à la musique. C'est d'abord la danse, et puis après, la musique s'en vient. Puis après, ce qui est extraordinaire dans la musique de Louis, c'est après il me donne sa musique. Puis là, sa musique vient me toucher dans ma chorégraphie. Donc là, il y a cette note-là. Puis après ça, moi, je me colle à lui. Lui, s'est collé à moi, mais moi, je me recolle à lui dans des détails, dans toutes sortes de choses comme ça. Alors, finalement, on est assez collés, je crois.
Restez collés. Marie Chouinard, jusqu'au 23 juillet, dans la cour du lycée Saint-Joseph pour Soft Virtuosity, Still Humid, On the Edge. Merci beaucoup.
Marie. Merci.
Clara, le Picard, va venir sur ce plateau. Voilà. Bonjour.
Bonjour. Merci.
Alors, sachant qu'on va devoir marquer une minute de silence, vous le savez. Hein. Bon. Il y a une bouteille d'eau qui est tombée, mais il y en a quand même une qui est là. Il faut d'ailleurs que je mette une horloge pour voir quand même de façon un peu précise. Si j'arrive à lire comme ça, pardon. Ouais. Bon, on va faire ça à peu près. On va parler à présent du spectacle intitulé « De l'imagination » avec Clara Le Picard qui en signe le texte, la mise en scène et la scénographie et qui en est l'une des trois interprètes. Tout commence, Clara Le Picard, avec une lettre qui doit être décachetée en votre présence, avec une danseuse et un pianiste à vos côtés. Vous lisez donc cette lettre qui s'avère être non signée et qui recèle une menace. Car si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, trois petits points. Comment est-ce que vous avez imaginé ce point de départ?
En fait, mon précédent spectacle, All Bovary's, était sur l'imagination, mais du côté du rêve, la partie positive, en tout cas celle qui permet à l'être humain d'imaginer ce qu'il pourrait être lui-même en mieux, ce qui permet de se développer. Et en fait, j'ai eu envie de travailler sur la partie sombre de l'imagination, qui va être la terreur. Et donc, j'ai eu envie de travailler sur le lien de consentement qu'implique une relation de terreur. N'est terrorisé que celui qui accepte d'être terrorisé. Donc, j'ai eu envie de repartir, comme pour All Bovary's, d'un thème, d'un endroit de notre inconscient collectif et de retraverser cet inconscient collectif, mais justement à l'endroit d'aujourd'hui, sachant qu'on a beaucoup plus de choix et beaucoup plus d'outils, qu'on est beaucoup mieux défendu. Et donc, j'ai eu envie de retraverser l'histoire de Barbe Bleue. Et comme dans l'histoire de Barbe Bleue, le mari menace la femme que si elle est curieuse, il va l'assassiner, quoi. Eh bien, j'ai transposé ça sur moi. C'est-à-dire que quelqu'un me donne quelque chose, me fait un teasing, et moi, ben, je ne peux pas résister parce que je suis curieuse, parce que quand même, la curiosité, c'est la plus belle des qualités humaines. Donc, voilà. Et à travers ce prisme-là, je vais dévider une double intrigue qui va être celle de la femme de Barbe Bleue enfermée dans sa tour en train d'attendre. C'est les 20 minutes, en fait, où elle est... où elle est seule et elle est censée prier pour recommander son âme à Dieu. Et moi, je suis sur scène en lien avec une puissance manipulatrice et toute puissante. Et voilà, je suis aux prises de ça. Et comment on réagit ? On est donc trois interprètes et on réagit tous les trois de façon très différente à ce qui nous est donné à vivre.
Et sur scène, vous êtes aussi en lien, et c'est vraiment important dans votre travail, en lien avec le public, parce que oui. La présence du public, elle est très importante chez vous. C'est bien au public que vous lisez cette lettre, c'est lui que vous prenez à témoin de l'histoire qui se joue, enfin de la double histoire qui se joue.
Tout à fait. L'idée aussi, c'est que le public... Mon travail en général est sur la frontière entre la fiction et la réalité, et un de mes grands enjeux, un de mes grands plaisirs, c'est de brouiller les pistes et de faire qu'à un moment donné le public ne sache plus si c'est de l'improvisation, si c'est écrit, si voilà, et que lui-même se dise en fait peut-être que ça lui échappe. Et dans ce cadre-là, par rapport à la justement à l'idée de la terreur et de la menace, c'était intéressant que le public à un moment donné se dise bon, elle maîtrise tout, elle maîtrise tout, elle maîtrise tout, elle maîtrise tout, oula, en fait est-ce que ça c'était prévu, et ça c'était prévu, et que petit à petit en fait lui-même se retrouve inclus d'abord en étant spectateur, mais tout d'un coup lui-même participe à est-ce que j'accepte d'avoir peur, est-ce que je me dis non, en fait je suis très fort et je peux lutter. Voilà, l'idée c'était vraiment de, à chaque fois j'essaye d'inclure le public dans la réflexion, dans la prise de décision. J'aime bien, j'ambitionne en tout cas à chaque fois que les spectacles soient l'occasion de re-réfléchir à quelque chose d'acquis, et que chacun à partir de ça se repositionne. Bon, voilà, c'est ambitieux.
Comment est-ce que vous avez choisi la danseuse Maud Pison, et qu'est-ce que vous lui avez demandé dans le travail de création ?
Alors Maud, c'est une danseuse qui est installée à Marseille. Moi aussi je suis installée à Marseille. Il se trouve que l'année dernière, lieu public à Marseille m'a proposé de faire ce qu'on appelle une sirène et midinette, c'est-à-dire une petite performance sur le parvis de l'opéra. Et pour cette performance, j'ai eu envie de travailler sur la mondialisation de l'économie. Et j'ai un personnage récurrent de scientifique autodidacte qui se clone. Et donc là, comme c'était sa troisième venue, je voulais qu'on soit trois. Et donc j'ai commencé à chercher avec qui je pouvais me cloner, puisque en fait c'est moi qui l'incarne. Et donc il me fallait des gens qui soient à la fois dans une apparence réalité, mais capables d'être très libres, parce que en fait de faire croire au public que c'est réel, ça demande quand même voilà un petit peu de courage. Et il se trouve qu'on m'a parlé, j'ai questionné pas mal de gens, et on m'a parlé de Maud. Et Maud, il se trouve qu'elle est notatrice, la Banne. Et qu'elle est passionnée par les textes de danse anciens, et qu'elle les remonte, et notamment elle est passionnée d'Isadora Duncan, et il se trouve qu'elle a fait une fausse conférence sur Isadora Duncan. Et donc on m'a raconté ça, comme moi j'en ai fait des fausses conférences, que j'adore ça, je l'ai rencontrée, et effectivement, bon, voilà, tout de suite on s'est retrouvés, on comprend ce dont on parle. Et donc j'ai écrit vraiment la pièce pour Maud, et aussi pour le compositeur Or Solomon, qui était déjà le compositeur des chansons dans All Bovary's. Et en fait, j'avais envie de m'offrir un spectacle, comme je suis dans mes spectacles, en fait, là, je me suis dit, j'avais envie de faire un spectacle beaucoup plus ouvert au public, c'est-à-dire beaucoup plus jeune, que ce soit accessible à toute la famille, que ce soit à la fois un moment de questionnement, de réflexion, mais aussi de pur plaisir. Et il se trouve que Or Solomon fait des très très belles mélodies. Moi, je suis très sensible à la danse aussi. Et donc, pour eux deux, j'ai écrit cette pièce. J'ai écrit un livret et j'ai raconté à Maud ce que j'imaginais comme énergie de danse. Et il se trouve que le XXe siècle, c'est un temps de révolution. J'avais envie de faire un drame symboliste, très inspiré par Péléas et Mélisande. Et dans cette ambiance-là, j'avais envie de quelque chose qui aille quand même ça assez loin dans l'imaginaire. Et il se trouve que le XXe siècle en danse a été un siècle de révolution, puisque la femme était d'abord un simple corps interprète, et tout d'un coup, elle est devenue chorégraphe et révolutionnaire. Notamment Isadora Duncan, Loy Fuller, etc. Tout d'un coup, le corps s'est libéré. Et comme quand même un des enjeux de Barbe Bleue, c'est le corps de la femme, puisque la petite clé, bon, voilà, on peut en faire ce qu'on veut. et notamment toute seule, ce qui est un des grands enjeux de Barbe Bleue. Voilà, j'avais envie que la danse retraverse aussi cette libération du corps de la femme et tout d'un coup l'émergence d'une femme libre et égale. Voilà. Après, c'est pas un spectacle purement féministe. C'est-à-dire qu'autant Aul Bovary est très sur la place de la femme dans la société et la société de consommation, comment la société de consommation objectifie, quoi, ou, je ne sais plus comment on dit, la femme et la rend esclave de la consommation. Autant là, l'idée, c'est vraiment que la femme et l'homme sont des images profondes de notre inconscient et qu'on a tous en nous le barbe bleue et la femme, donc le terrorisant et la terrorisée, et qu'on peut travailler avec eux. Et que, voilà, j'ai réécrit la fin de Barbe bleue, il va sans dire, personne ne meurt.
Et oh bah mince, vous divulgâchez voilà. Tout.
Ça, c'est interdit de le publier, bien sûr. Et donc voilà, en tout cas, voilà, l'idée, ça a été vraiment de faire une sorte d'hymne à la liberté et à la curiosité. Et à la vie, en fait, à travers cette pièce.
Qu'est-ce que provoque chez vous et que provoque idéalement pour le spectateur la musique dans Solomon ? J'aimerais qu'on revienne sur cette dimension-là un instant, dans la minute 30 qui nous reste avant une minute de silence qu'on observera ici.
En fait, le travail de Orr est très impressionniste, il est très évocateur, il a un piano assez économique, en fait, il n'est pas bavard. Mais en fait, il a une capacité de créer des mélodies qui, moi, m'émeuvent énormément. Et d'ailleurs, par rapport... Moi, je lui avais passé commande un peu égoïstement de 25 minutes de chant, voilà, comme ça. Et en fait, il m'a rendu une partition avec beaucoup, beaucoup de récitatifs. Et j'étais un petit peu déçue. Et en fait, effectivement, à travers cette économie, le très peu, tout d'un coup, s'instaure une ambiance, un temps. On sent monter en fait l'angoisse de cette femme et son trajet depuis la terreur absolue, comme quand on est dans les phares d'une voiture, et petit à petit la révolte, elle se confronte à ce qu'étaient ses rêves, et ensuite elle décide de devenir une icône, quoi, une figure forte, quelqu'un sur qui on pourra s'appuyer après. Et donc ça, voilà, toute sa musique traduit ça et nous amène jusqu'à la libération.
Ça va être effectivement dans 10 secondes midi et que même s'il n'y a pas de rouge micro et qu'on n'est pas en direct, on va observer comme ça va être le cas dans tout le pays, une minute de silence qui commence maintenant. Merci. Ben voilà. Parce que comme le spectacle, c'est quand même aussi la question d'affronter le réel. On est en plein dedans. Une minute de silence avec une sirène. L'envie de travailler ce conte de Barbe Bleue, cette réécriture, le fait que ce soit donc programmé à la Chapelle des Pénitents Blancs, donc destination du jeune public, mais enfin un bon spectacle jeune public, c'est un spectacle tout public, ai-je l'habitude de dire, je le redis ici. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire aux plus jeunes des spectateurs qui vont venir voir le spectacle ?
Moi, ce qui m'a frappé dans l'histoire de Barbe Bleue, c'est que, en fait, enfant, jamais on remet en question l'idée que Barbe Bleue a le droit ou pas de tuer sa femme. C'est-à-dire que c'est quand même très étonnant. Elle découvre les femmes assassinées, elle reste, elle attend. Et puis, en fait, enfant, on attend juste qu'il passe à l'acte. Or, voilà. Je pense que maintenant, on sait que les enfants sont très sages, qu'ils ont bien plein de bons réflexes et de vraie spontanéité intelligente. Et donc, l'idée, c'était de dire, depuis l'enfance, tout petit, mais fiez-vous à vous. vraiment, soyez attentifs à ce qui vous entoure. Ne croyez que ce que vous voyez, entendez et pensez, et parlez de tout, surtout. Et c'est vrai que ça, c'est valable, il me semble, à la fois pour les enfants, mais c'est très, très vrai aussi en ce moment pour les adultes. C'est-à-dire qu'on est pris dans un flux incessant de discours prépensés et parfois, on oublie de réfléchir ce qu'on pense. Et donc, on se retrouve terrorisé, en train de se dire que tout est très grave, d'oublier que, bon, ben, on a quand même un certain nombre de chances et on a un certain nombre, surtout, de pouvoir d'action. Et je trouve qu'on est dans une période où finalement on est très acculé au mur, on s'accule soi-même au mur, hein, parce que de toute façon personne ne peut jamais vous faire faire quoi que ce soit contre votre gré, à part la violence vraiment physique et vous assassiner, mais tant qu'on n'en est pas là, on est très nombreux et on est très puissant. Et en fait voilà, c'est vraiment un spectacle là-dessus, dans l'idée de remettre le sujet au centre de sa pensée, de son monde et de ses décisions. À savoir que voilà, Barbe Bleue, en ce moment, on nous le fait voir partout. On nous explique partout qu'on est la femme de Barbe Bleue et que, attention, si on lève le petit doigt, on va être... Non, en fait, on est très, très fort. On est très inventif et on a intérêt à être curieux et on a intérêt à poser des questions et à refuser ce qu'on nous impose par la violence. Et la violence, elle est partout en ce moment. Voilà. Et que ce soit... Et donc, pour moi, le personnage de Barbe Bleue n'est pas qu'un homme. C'est un gouvernement, c'est une frontière, c'est un état du monde, c'est une économie, c'est un point de vue, c'est une philosophie de vie. Et c'est une philosophie de vie que moi j'ai envie de contester et de combattre par mes outils, et qui c'est sous la forme d'un spectacle qui est à la fois très drôle, mais qui aussi bascule dans l'émotion profonde, j'espère, et qui parle de nos enjeux de vie en tant qu'être humain et qu'est-ce qu'on veut construire aussi pour l'avenir. Parce que chaque acte qu'on fait aujourd'hui est déjà le début de demain. Donc voilà, l'idée c'est d'être vraiment dans quelque chose... je pense que c'est le moment de se réapproprier notre vie et notre monde.
Voilà une belle conclusion pour parler de ce spectacle, Clara Le Picard, de l'imagination. Oui, il en faut pour inventer nos vies. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et je vais appeler les représentants éminents du Raoul Collectif à cette tribune et on va apporter quelques chaises de plus, même s'ils ne sont que 4 ou ils sont 5. Ah, ils sont là, les chaises.
Il y en a un hors service. Bon. Comme sur chaise, donc, a priori. On va quand même en trouver une deuxième. La production ne se refuse rien. Vous avez droit à 2 micros pour 4.
Ça rentre. Bien, c'est avec 4 cinquièmes de Raoul Collectif qu'on va parler à présent de Rumeurs et Petits Jours. Raoul Collectif formé par d'anciens élèves de l'école supérieure d'acteurs du Conservatoire de Liège. Peut-être quand même revenir là-dessus parce que c'était il n'y a pas si longtemps. Sur quelle envie ou sur quelle envie de spectacle, de théâtre ou sur quel rejet aussi d'un autre théâtre vous êtes réunis? Qu'est-ce qui vous a donner envie de travailler ensemble? Là, les prises de parole, c'est vous qui décidez. Hein. Ce n'est pas moi qui vais pointer tel ou tel du doigt.
On fait ça oui. Très souvent.
Je sais bien.
Alternativement, et ça marche bien. Ben, c'est sur base du signal du promeneur, donc notre premier spectacle, qu'on a décidé de repartir sur un deuxième. Le signal du promeneur mettait en scène des individus isolés, en rupture avec le milieu dans lequel ils évoluent. Et donc, c'était des quêtes individuelles qu'on pointait. Et lorsqu'on a joué une 150aine de fois, et très souvent, le premier retour qu'on avait, c'était qu'il y avait un groupe au plateau, la force du collectif. Et voilà, et on s'est dit, on interroge des quêtes individuelles, qu'est-ce que ça fait si à partir sur le même constat d'un monde en mutation, qu'est-ce que ça fait d'interroger alors le collectif? Quelle est la part d'utopie qu'il cache encore? Quelle est sa force aujourd'hui? Quelle a été son évolution? Qu'est-ce qu'on peut encore faire avec cette drôle de bestiole-là? Et voilà, c'est là-dessus qu'on a entrepris le spectacle Rumeurs et Petits Jours.
Point. Qui présente un curieux collectif, bon, celui de l'émission Épigraphe. Alors là, ils sont 5 sur 6, donc là, vous êtes 4 sur 5, ce qui est assez logique.
Le cinquième aujourd'hui.
Parce que c'est, comment il s'appelle, Schillaci, non?
Oui, André.
André Schillaci.
André Jérôme se porte souffrant ce matin.
Voilà, se porte souffrant. Épigraphe, c'est la dernière émission. Et nous avons décidé de vous dire la vérité. C'est quand même un sacré début, ça. C'est une mission tout à fait impossible. Vous le savez,
sans,
le départ.
Sans tourner autour du pot, même. C'est-à-dire sans.
J'arrivais pas à relire mes dernières notes, mais il n'y avait pas assez de lumière, sans doute, à ce moment-là.
L'annonce est faite assez vite. C'est la dernière émission. Et donc, il va falloir traverser cette chose.
C'est à peu près la même scénographie.
À peu près, oui. Il nous manque des lumières. Il nous manque un TD, un tourne-disque, comme on dit dans la bonne vieille radio, et puis une sorte de.
Non, en fait,
le Telex ne marche pas toujours, mais ça, c'est
une situation théâtrale, j'ai presque envie de dire faussement narrative, dans le sens où ça permet assez vite d'être dans une fiction, mais naturellement, ces chroniqueurs radio sont eux-mêmes une métaphore d'un groupe en rupture, et d'une groupe qui, en rupture, surtout en premier chef, parce qu'ils sont soumis à des coupes budgétaires, donc on leur dit maintenant c'est fini. Et ils sont aussi un peu ringards, je crois, pour la direction de leur chaîne, puisque leur objectif, c'est de rechercher de la beauté. C'est une émission qui est consacrée à la beauté, c'est ce qu'on se raconte. Et donc, on comprend vite comment est-ce que ce soit dans les années 70 ou aujourd'hui, une émission consacrée à la beauté, elle risque d'être pas intéressante pour des actionnaires de chaînes privées, quoi. Et bref, tout ça pour dire que c'est bien sûr une métaphore d'un groupe qui traverse un état du monde, un ordre des choses, et donc cette annonce de dernière émission va naturellement perturber tout leur cadre.
Et c'est pas qu'un faux prétexte, si j'ai pu complémenter, parce que cette situation-là de dernière émission nous invite aussi, en fait, dans les thématiques, on est en plein dans le centre, à traiter ce qui s'appelle la crise, ce qu'on appelle la crise, à l'observer, à voir que c'est un phénomène cyclique. Et donc cet interrègne-là, c'est entre deux époques, ces moments de crise, qui sont aussi des moments douloureux parfois, sont aussi les moments de chaos qui permettent de reconstruire quelque chose. Et donc la situation de crise permettait d'interroger le groupe, enfin de traiter le groupe.
Ce qui est intéressant dans ce groupe-là, c'est que très très vite, ils ont chacun quand même une identité, une personnalité très forte. C'est-à-dire que ce collectif, il est très fort parce qu'ils sont tous très différents. Ça, c'est quelque chose qui était pour vous évident à l'écriture. Est-ce que c'est un mouvement naturel? Comment ça se construit?
C'est l'épreuve du plateau qui a déterminé les traits de caractère de ces personnes-là, et même en fait dans la disposition. C'est-à-dire qu'il y en a un, moi, Jacques, qui est au milieu, qui est un contemplatif. Il y en a à ma gauche qui sont, eux, peut-être un petit peu plus avec la direction de la chaîne, et peut-être
ils ont déjeuné à midi ensemble.
Non, Jacques, vous pouvez pas dire ça, Jacques.
Et de l'autre côté, il y a la frange un peu plus révolutionnaire qui a envie de faire quelque chose de cette dernière radio, donc de ne pas continuer à dénicher de la beauté, mais de pointer les problèmes, de rentrer dedans et de faire un événement, de modifier le cours de l'émission.
Mais ils ont chacun aussi une humeur.
Pour interroger le groupe, c'est évident qu'on n'allait pas mettre au plateau une forme d'uniformité comme ça. On n'allait pas tous se ressembler. Enfin, ce qui nous interrogeait dans le groupe, c'était comment ils se contredisent, comment ils se bousculent, comment ils disent des choses tout à fait différentes, parfois en visant les mêmes objectifs. En fait, c'est la complexité du groupe et l'horizon qui se donne qui nous intéressait. Donc, on avait besoin pour ça de traits de caractère et de force en présence qui soient. Qui agissent en contradiction. Ouais.
Et puis c'est la question du projet commun, c'est-à-dire qu'on s'est aussi beaucoup inspiré des situationnistes, qui étaient un groupe absolument formidable, qui ont provoqué une révolution assez intéressante dans l'histoire, qui est quand même mai 68, qui n'a évidemment pas abouti sur grand-chose, qui a été récupéré partiellement. Mais tout de même, ce sont des gens qui sont auto-exclus au fur et à mesure, alors qu'ils étaient tous a priori du même bord, si on peut le dire comme ça. De bord, du même de bord. Ouais. Enfin, Van Egem et de bord ont été comme les derniers à s'auto-exclure. Enfin, c'est quand même terrible. Donc, et d'ailleurs, dans les lettres qu'ils se sont écrites, qui sont des lettres avec un certain verbe, ils se le disent clairement. Van Egem dit ça, hein, comment ce projet fantastique a pu devenir un malaise d'être ensemble. Et donc, évidemment, tous les groupes, chaque groupe, quand il est confronté à une épreuve, est amené à se positionner de manière à chaque fois. Enfin, les individus doivent se positionner dans le groupe. Évidemment, des alliances se font, des contradictions apparaissent, mais c'est souvent aussi. C'est souvent le défi des groupes de réussir à retrouver le projet commun. Donc, oui, voilà, c'est aussi pour ça qu'on a été vers des personnalités assez différentes.
Mais à propos de groupes et d'exclusion, il y a évidemment les surréalistes qui sont importants. J'ai souvent l'habitude de dire que la bonne branche du surréalisme, c'est le surréalisme belge. Alors, est-ce que Michaud est belge ou pas ? C'est une question qu'on ne résoudra pas ici. Mais il n'empêche qu'il y a ce lien aussi avec Michaud, très fort, qui attend au début du spectacle, mais qui est aussi le lien au Mexique, une recherche aidée médicalement, je veux dire, vers la beauté, des expériences. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu, vous, au Mexique, en vrai ou en faux, je ne sais pas.
Bien, en effet, on construit nos répétitions de voyages, souvent, de marches, qui sont des étapes dramaturgiques parfois beaucoup plus importantes que le temps qu'on perd au plateau. mais souvent, dans le voyage, dans les expériences qu'on vit ensemble, on dégage pas mal de lignes, en tout cas dramaturgiques, il en ressort. En tout cas, ça travaille pour nous. Sans qu'on travaille, ça travaille. Et dans le signal du promeneur, on était inspiré par un bonhomme qui est belge toujours, qui est parti il y a 36 ans vivre au Mexique avec une quête déraisonnable. En effet, comme le point TJB dans le signal, c'était des quêtes individuelles qui s'excluaient, qui sortaient de cadres qui les oppressaient. Et ce bonhomme-là, lui, avait décidé d'aller chercher un ptérodactyle en vie, un dinosaure vivant. Et il le cherche toujours avec mais sérieusement, vraiment. Ouais. C'est-à-dire que c'est un scientifique autodidacte qui cherche avec une certaine obstination et avec des preuves à l'appui et un livre qu'il est en train d'écrire, un ptérodactyle dans des gouffres.
Notamment un ptérodactyle. Parce qu'en fait, on met souvent le doigt sur le fait qu'il cherche un ptérodactyle, mais il cherche aussi des éléphants nains, et il cherche tout un tas de bêtes.
Et donc, on est allé chercher.
Tout aussi formidables les unes que les autres, d'ailleurs, tout à fait, et inconnues.
On est allé chercher cet homme, plus que le ptérodactyle, avec l'espoir de revenir avec le ptérodactyle, mais on est allé chercher cet homme pour l'interroger, parce que sa quête de vie, en fait, la puissance de vie qu'il dégageait, sa fuite, sa quête, ce qu'il fuyait et en même temps ce qu'il cherchait nous intéressait très fort. Et donc on s'est inspiré de lui pour le premier spectacle et on est allé le voir dans l'optique de continuer à travailler avec cette énergie-là pour le second. Mais en allant le voir, on est passé par différents endroits du Mexique. On a dû atterrir à Mexico, il se trouvait à Monterrey, dans le nord du Mexique, et on a dû passer par le désert de Wirikuta qui se trouve près de Real de Catorce. Et là-bas, on a rencontré, en fait, on savait que ça existait. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on apprend des choses à chaque âge de la vie. Et on savait que ça existait. On a rencontré des peuplades, des huichols, des indiens huichols. Il y a aussi les tarahumara. Il y a une série de communautés, en fait, qui vivent, des communautés pré-toltèques qui vivent au Mexique et encore sous des régimes de vérité, en fait, dans des systèmes de vérité avec une foi devant laquelle on pourrait être, nous, occidentaux, totalement abasourdis. Et nous-mêmes, avec beaucoup de proximité, avec la volonté de vivre une quête là-bas, on a été quand même confrontés à des chocs culturels assez importants, puisque les personnes, et notamment le jeune homme qui avait notre âge, un indien huichol, avait un autre nord que nous. Il n'avait pas les mêmes points cardinaux que nous. Il avait d'autres croyances. Il ne croyait pas à un homme qui marchait sur l'eau ou qui changeait l'eau en vin, mais à des divinités qui vivent dans les plantes, qui sont les plantes, qui sont dans d'autres choses desquelles on pourrait rire si elles n'étaient pas extrêmement sérieuses et si cette communauté-là n'était pas en voie de disparition. En fait. Et donc ça nous a marqué, mais ça c'est sur le trajet, en fait, que c'est arrivé. Et donc on s'est interrogé sur ce qui est gravé au fer rouge sur notre front à nous, c'est quoi notre occidentalité, à quel groupe appartenons-nous et surtout à quel régime de vérité appartenons-nous, à quoi croyons-nous. On s'est rendu compte qu'on a dans nos gènes, nous, qui sommes nous nés dans les années 80, quelque chose qui appartient à l'ordre néolibéral. On croit, malgré nous, en fait, on croit, je ne sais pas si on y croit, mais en tout cas on est habité par des réflexes néolibéraux qui nous interrogent très fort et on a voulu les confronter à d'autres systèmes de croyances.
Après cette conférence du professeur Murgia, on va pouvoir effectivement introduire Tina. C'était beau, non ? Tina, l'élément féminin de Raoul Collectif. There is no alternative. Enfin, il y a quelqu'un qui dit
beaucoup
mieux que
moi. Elle est fatiguée aujourd'hui, Tina.
Tina est fatiguée, bon, mais elle a une belle moustache toujours.
Tina est increvable, c'est bien le problème de Tina.
Donc Tina, voilà, cette idée que si le monde marche comme ça, c'est qu'il ne peut pas marcher autrement. Voilà, une chose formulée par Margaret Thatcher, reprise par Ronald Reagan et par bien d'autres depuis. Bon, je dévoile un peu quand même quelque chose du spectacle. On peut dire que Tina va s'incarner. Donc, Est-ce que vous avez eu des débats critiques en interne sur la nécessité ou non d'incarner Tina sur le plateau? Et là, silence.
On a des débats critiques sur tout le temps.
Non, parce que c'est un choix qui fait basculer le spectacle quand même.
Oui, en effet, c'est un moment charnière et qui permet au spectacle de quitter en fait la table radio. Parce qu'on a eu en création très longtemps, on se disait bon, cette radio. En fait, on aurait pu faire un spectacle qui tienne de A à Z sur la radio où on est assis. Mais le Raoul Collectif, il y a une énergie de corps d'acteur qui est toujours en sourdine et qui veut à un moment donné s'exprimer. Et aussi pour des raisons dramaturgiques, puisque nous, Dave rappelait ce qu'on appelle les forces du vivant. Nous, on aime bien dire qu'on fait un théâtre libérateur et jubilatoire. Et donc, cette fameuse Tina qu'on n'arrive pas à tuer nous permet quand même d'installer un désert de smoule et donc d'entrer métaphoriquement en résistance. C'est-à-dire, bon, on ne peut pas la tuer vu que c'est une idée et qu'on on peut la déconstruire. On ne peut pas la tuer comme ça. Mais on peut se mettre à un autre point de vue précisément. Et on peut donc essayer de la regarder autrement et donc finalement de la ridiculiser. Et d'où en fait l'incarnation de cette idée où on se dit, par exemple le fait de dire que bon, c'est une idée qui a eu une importance capitale dans l'installation de l'ordre néolibéral, mais à la base c'est une formule terroriste et en fait très mesquine et très pauvre. Et de dire il n'y a pas d'alternative, en fait peu importe le projet politique défendu, c'est une bêtise sans nom. C'est tout petit, c'est vraiment minuscule. Mais c'est vrai, c'est ridicule en fait. Et bon, voilà, l'incarnation était une manière de rendre ça ridicule et surtout aussi une manière de tout simplement poser la question, mais vraiment, Tina, peut-on vous éliminer? Et en effet, c'est une charnière dans le spectacle.
Et puis ça nous permet de passer à autre chose. En effet, il faut un moment qu'on fasse, on voulait faire apparaître, ou en tout cas, c'est-à-dire ces chroniqueurs sont confrontés à une série d'obstacles. Sont confrontés à leur propre situation et à la propre complexité de leur groupe qui les empêche à chaque fois d'avancer. Et à un moment, il fallait nommer ce que l'on n'arrive pas à nommer, cette espèce de fatalisme qui est là, cette résignation qui est là et face à laquelle on croit qu'on ne peut rien faire. Et finalement, c'est là que Michaud intervient en changeant de point de vue, en le regardant autrement. On se rend compte à quel point c'est ridicule, en effet, de castrer notre imagination comme ça et de s'empêcher de réfléchir autrement.
Je croyais que Tina voulait s'exprimer autrement.
Oui, c'est important parce qu'on est quand même toujours dans une tentative avec ces chroniqueurs radio de penser en fait. Le fait que ces chroniqueurs pensent ensemble, il y a une nostalgie aussi de ça en fait. Même par rapport à donc l'émission Le Masque et la Plume qui est quand même notre inspiration. Et c'est le fait que ce soit situé dans les années 70, 70. Il y a pour nous quand même une forme de nostalgie par rapport à cette époque où on prenait le temps en fait. Où en fait Tina était moins là qu'aujourd'hui. Où elle a commencé à apparaître, mais où on prenait le temps quand même de penser, tout simplement. Et donc, pour poursuivre sur ce que disait David, ça nous paraissait intéressant que ces chroniqueurs arrivent à nommer, ne fût-ce que le symbole de ce qui leur arrive, en fait, puisqu'on leur dit, l'émission est finie, c'est comme ça. Et cette chose-là arrive, bon, on va couper dans les services publics, et c'est comme ça. La culture coûte trop cher, et c'est comme ça, comme si c'était vrai. On va racheter des avions Rafale ou des F-16 en Belgique, et c'est comme ça. Et cette chose-là, pouvoir nommer ce qui empêche, en fait, nous paraissait intéressante en vue de la dépasser.
C'était déjà présent dans le signal du promeneur, ça l'est à nouveau, c'est le chant choral. Comment ça intervient dans le travail pour vous? À quelle fonction du langage ça répond? Pas très envie de parler. Hein.
Je veux bien parler, mais je trouve qu'ils parlent très bien. Je suis vraiment étonné. J'aime bien les écouter.
Bon,
c'est une découverte quotidienne.
On arrive encore à se surprendre, quotidienne. Même après toutes ces années.
Le chant et la musique. En fait, tout simplement, pour nous, c'est une manière de se mettre au travail. On aime bien commencer nos journées en chantant ou les commencer en faisant de la musique, en jouant des instruments de musique. Et puis, c'est aussi une manière de... Puisqu'en fait, avec Tina, il y a aussi l'idée d'interroger les idées et la pensée, donc d'interroger autre chose que le langage. C'est un spectacle dans lequel on parle beaucoup. Dans Le Signal du Promeneur, on parlait beaucoup aussi. On avait pourtant eu l'intention, sur le deuxième, de faire un spectacle où on ne parlait pas. C'est complètement raté, parce que là, on parle du début à la fin. Mais donc, le fait de chanter, ça permet aussi de ne pas parler. Et de trouver une autre manière d'être ensemble, une forme de chercher l'harmonie. bon, ça peut paraître un peu hippie ou tout ce qu'on veut, mais n'empêche que c'est vrai de se mettre ensemble et de chercher vraiment ensemble à faire résonner une note, à faire trouver un accord, etc. Il y a quelque chose qui se passe concrètement dans le son et qui nous met ensemble. Donc c'est une chose qui nous plaît, ça nous plaît de le faire. Et là, c'était encore lié de nouveau aussi à ça, hein, au fait de s'engager dans la bataille des idées, de la pensée, du langage sans parole, le langage de la poésie. Enfin, toutes ces choses-là sont des choses qui reviennent souvent. Et c'est une manière de le faire aussi. Et puis sur la question de la musique, par exemple, on était dans le signal du promeneur, on avait fait une fanfare parce que ça nous plaît, en fait, les fanfares, on aime bien. C'est vrai, ce sont aussi des lieux où on peut résister. Pas les fanfares en tant que telles, mais les endroits où on peut faire de la musique ensemble sont des endroits en fait où le monsieur, madame, tout le monde peut se retrouver le vendredi soir pour faire autre chose et rencontrer différemment les gens, etc. Donc ça nous plaisait et on avait envie là pour Rumeur et Petit Jour de faire recréer une famille de tuba. Donc on a appris à jouer du tuba pour le spectacle. Et David joue particulièrement bien du tuba parce que à la base il ne jouait pas du tout de musique et je le vois progresser d'année en année, c'est formidable.
On peut dire que c'est un spectacle optimiste.
Oui, parce que en tout cas pour nous ça l'est parce que ce serait impossible de créer autrement. Parce que pour nous, la création est un acte de résistance et que c'est une manière de ne pas s'effondrer avec le monde qui croule. Et parce que nous racontons une histoire dans laquelle ces cinq personnes, ce groupe qui voit leur projet être détruit, se réinventent ailleurs et vont interroger le monde d'un autre point de vue. C'est évidemment métaphorique, mais ils installent un désert. Ils pensent que dans le désert peut se trouver des îlots de lumière, des maquis, et ils l'installent pour regarder le monde différemment. Et c'est une manière, évidemment, changer le monde, c'est un fantasme, une envie, un désir avec lequel on a commencé à faire du théâtre tous ici, Jérôme aussi qui est encore à l'appartement. Mais changer le monde, en tout cas, on y contribue en changeant nos points de vue, en se mettant dans différents points de vue. Et
Non, je pense tout d'un coup à notre aphorisme de Michaud qui ouvre notre émission de radio, « Faute de soleil, sache mûrir dans la glace », qui est un aphorisme quand même qui nous a beaucoup touchés collectivement, et qui est issu en fait d'un petit recueil qui s'appelle précisément « Poteau d'angle », où en fait Michaud, par aphorisme comme ça, procède véritablement par changement de point de vue. Et en effet, c'est une forme de... Et là, si on peut changer de point de vue par rapport au réel, on peut en fait se placer ailleurs et donc y opposer une résistance. Et donc, il y a une foi comme ça dans la bataille des idées, dans le fait de se réapproprier une pensée, dans le fait c'est ce que dit David, de ne pas croire à la métaphore du monde horloge, c'est-à-dire de croire vraiment à la possibilité des petits jours pour reconstruire un ordre qui n'est pas celui qu'on connaît. On y croit pour de vrai.
Non, mais parce qu'il y a une extrême cohérence dans l'écriture, même si ça peut ne pas apparaître évident en voyant le spectacle. Entre le si de la sixième octave, cette musique du soleil, le fait de s'intéresser aux espèces en voie d'extinction qui vivent dans les déserts, évidemment, et de repartir de là pour réinventer le monde. C'est-à-dire c'est une deuxième genèse que vous proposez quasiment à la fin du spectacle.
Plus,
ça vous va comme lecture ou
oui, enfin, oui,
c'en
fait.
Est une,
et puis,
hein, mais
et puis en effet, quand on a été quand on a rencontré ces gens à Bricouta et que, enfin, je veux dire, ce sont des véritables possibilités d'alternatives en fait. S'intéresser, il y a des sociologues qui s'intéressent et des politologues qui s'intéressent à comment est-ce qu'on peut envisager le monde d'un autre point de vue. Et il y a des exemples de communautés qui vivent tout à fait différemment, qui envisagent le monde tout à fait différemment, qui vivent le groupe différemment, qui ont un rapport différent à la nature, qui sont en fait véritablement des exemples. On pourrait vraiment s'en inspirer pour réaménager notre rapport au monde aujourd'hui. On ne le fait pas parce qu'il y a une idéologie qui nous dit que non, il n'y a pas d'alternative à ce que nous vivons, nous, ici en Occident. Donc, ça fait aussi partie de l'aspect positif, optimiste. Et puis, en effet, les petits jours, Nuit debout, ça a évolué de telle manière que maintenant on n'entend plus beaucoup parler, je crois, mais ça a existé, et je crois que ça continue à exister dans la tête des gens. C'était important, ce sont des événements importants, comme les indignés en Espagne, ça a été très important, ils se sont constitués maintenant en parti politique, ils investissent le champ politique aussi. Donc en fait, il y a aujourd'hui, et tant mieux, une nouvelle manière de se réapproprier le politique. Et donc, soudainement, on imagine... Alors, en France, on est dans un système complètement archaïque où on croit que c'est un homme providentiel qui va nous sauver. Mais heureusement, il y a quand même des gens qui, maintenant, considèrent différemment un peu le...
Nous, en Belgique, on a un roi.
Mais il ne fait rien et il ne dit rien.
C'est quand même mieux, un roi.
Et,
il...
et parfois un gouvernement.
Et parfois un gouvernement.
Je rajouterais que... Parce que c'est en effet ça nous touche beaucoup, ces irruptions comme ça qui ont lieu partout, qui sont venues du sud de l'Europe, qui ont eu lieu en Grèce, en Espagne,
Occupy Wall Street aussi.
Occupy, mais depuis je sais pas depuis quand exactement, je dirais, en tout cas j'ai l'impression que depuis 2008, depuis la crise financière, il y a une série d'irruptions comme ça, une série de scandales qui se dévoilent et qui, en fait, si même là on n'y réagissait pas à cette évasion fiscale, à une série de phénomènes comme ça, si même là on n'y réagissait pas. C'est que vraiment ce serait foutu et morbide. Donc on salue évidemment chaque instant où il y a des personnes qui croient, qui pensent qu'elles sont encore capables de modifier le cours des choses, parce que c'est aussi à ça qu'on réagit, et c'est là où notre spectacle est optimiste de base, parce que dans notre geste, en fait, non seulement on est pétri et on est préoccupé par des phénomènes morbides qui nous accablent, qui accablent notre époque, et nous on les considère immédiatement liés souvent à l'ordre néolibéral. Mais en plus, on a tout de suite dans le geste créatif la volonté de les dépasser. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne va pas traiter que ça. On va aussi se mettre, même si ça va être très difficile, même si peut-être on n'y arrivera pas avant la première, on va se mettre l'objectif de les dépasser ou de les contourner pour arriver à autre chose. Et ce que je souhaite dire par là, c'est qu'on a voulu, dès le début, identifier le fait que... Enfin, on a voulu... travailler sur le fait que la société dans laquelle on vit n'a pas été parachutée ou n'est pas un ordre naturel ou n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain comme un grand soir, justement. Et qu'il y a eu des gens, des penseurs, des gens qui détiennent une hégémonie économique et qui ne voulaient absolument pas la perdre, des gens qui étaient effrayés par quelque chose, par le nazisme, par le communisme. Mais en tout cas, il y a eu des gens qui, petit à petit, ont pensé et ont construit, ont solidifié une idéologie, celle dans laquelle on vit aujourd'hui.
Et ils se sont constitués en groupe pour le faire.
Ils se sont constitués en groupe pour prôner l'individualisme et pour détruire le groupe quelque part. Jusqu'à ce que Margaret Thatcher déclare que la société n'existe pas, qu'il n'y a que des hommes, des individus. Et plus tard, elle dira des familles. Mais elle disait aussi que l'économie n'était qu'une méthode et que son objectif, leur objectif, était de changer les âmes. Et ça, on croit qu'on en est le résultat quelque part. Et donc c'est aussi à ça qu'on résiste quand on fait du théâtre.
Il y a un propos conclusif avant de rendre l'antenne. Grosse responsabilité.
Mais je pense.
Jacques.
Oui. Voilà. Mais dans le signal du promeneur commençait par un petit prologue d'un éclaireur rassemblait des gens pour essayer de faire la lumière sur les problèmes. Et ça commençait par un constat d'une barbarie généralisée, globalisée. Et à cette barbarie s'opposait quand même une hypothèse improbable, mais non nulle, d'une métamorphose planétaire. Et les petites qu'on vient de citer, qu'on vient de pointer, Podemos, Nuit debout, toutes ces petites choses sont en fait des mécanismes qui commencent à s'imbriquer les uns dans les autres et qui contribuent à leur manière et lentement mais sûrement à un monde qui mute et peut changer, la vapeur... peut travailler avec elle, peut la renverser et contribuer à un ordre nouveau, naissant, meilleur et plein de bonnes choses.
En tout cas, non, mais en effet, voilà. ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui et elles sont indéniables, mais que ce soit de gauche, de droite, tout le monde aujourd'hui se rend bien compte qu'on vit dans des mécanismes, que notre rapport à l'emploi, notre rapport au travail, il y a une série de choses qui ne sont plus d'actualité et qu'il faudra bien réinventer d'une manière ou d'une autre. Et le cours de, il y a des gens dans le cours de l'histoire qui y prennent part. C'est juste qu'en effet, le rapport de force n'est pas en la faveur de ceux qui n'ont pas la parole, évidemment. Mais néanmoins, nous, on souligne et on soutient chaque irruption de vie qui a lieu dans cette, dans cette, dans cette avancée vers la catastrophe écologique, économique. Donc, c'est
de dire, ouais, tout à fait. C'est de dire, finalement, cette Tina n'est ni infaillible, ni inéluctable. Mmh. Et en fait, nous, on est quand même nés. On l'a presque, elle est presque véritablement rentrée. On est quand même nés. On est une génération des années 80, on est en 86, 85, 88. On ne sait même plus qu'en fait, il y a eu, post-Seconde Guerre mondiale, un rapport de force et que ça a mis du temps à arriver, cet ordre néolibéral. Et ça veut bien dire qu'il y a des gens qui ont travaillé. Donc, ça veut bien dire qu'on peut travailler à toute autre chose. C'est aussi ça, ça quand même, ça, c'est, voilà.
Voilà, Rumeur et Petit Jour jusqu'au 23 juillet au Cloître des Carmes, et puis après une immense tournée, le règne du fric, quoi, et du copinage. Bruxelles, Lyon, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Vite, Nivelles, Théâtre de la Bastille à Paris, le Forum de Mérin, à Bienne, Ciné, Tournée, Soigny, Châtillon, Liège, Cherbourg, Namur... Il n'y aura pas d'alternative. Il faudra qu'on voit Rumeur et Petit Jour. Merci beaucoup.
Merci à vous.